Ça voudrait dire, qu'est-ce que c'est que l'héritage des nations? Quelle est la terre que les nations tout entières réclament comme leur héritage? C'est Eretz Israël. Alors, suivez-le, c'est clair, hein? Suivez le raisonnement. La force de ces actes, Koach Maasav, c'est le Maase Bereshit, le récit de la création, entre guillemets, il le raconte à son peuple pour pouvoir leur donner l'héritage des nations, c'est-à-dire la terre que les nations réclament comme leur héritage, pour pouvoir leur donner une argumentation lorsque les nations leur diront, en suivant Rashi, She'im yomru mota'olam, parce que si les nations du monde, il y a une allusion à l'ONU, les nations du monde tous ensemble, hein, okay? Si les nations du monde disent à Israël, l'estime, vous êtes des brigands, chez Kabashtem, ici Matem, chez Kabashtem, parce que vous avez conquis Arsot Shiv Agoim, les terres des sept peuples, la Ligue arabe, enfin, c'est les sept peuples qui occupaient le pays de Canaan, vous voyez, ce n'est pas les mêmes. Il y a les nations du monde qui réclament, qui disputent Israël, parce qu'Israël a conquis la terre des sept peuples. C'est ce qu'on lit dans les journaux, okay, les Rachis. Okay. Quand on lit dans les journaux, les nations du monde nous disent, vous êtes, ils ne disent pas l'estime, qui signifie des brigands, ils disent impérialistime, colonialistime, enfin c'est toujours l'estime. Jusque-là, ça va, c'est trop. Et alors, vous êtes des sionistes, puisque vous avez conquis par la force, j'ajoute par la force pour aller vite, la terre des Palestiniens. Top. Et bon, même la haine, alors on leur répondra aux nations du monde. Toute la terre appartient au Saint béni soit-il. Houbera, il l'a créé. Il fallait donc avoir un verset où il l'a créé. Vous suivez? Venatna, là.
Même les hommes ont coupé.
C'est quoi?
Même les hommes
ont coupé. Attendez, la question est plus haute. Il s'agit de toute la terre, la planète entière. Hein, protocole de succession. Okay. Bon, mais toute la terre appartient à Dieu qui l'a créé, donc cette terre où il y a contestation. Et il la donne à l'Achel Yachar Be'enav, qui est droit à ses yeux, non pas à qui bon lui semble, comme on a vu. Imaginez l'OLP se servant du Rashi en français ici. Birtsono nitna lahem, par sa volonté, il leur a donné. Ou Birtsono nitla mehem, et par sa volonté, il leur a prise. Benitna nous, et nous l'a donné. On pourrait rester des heures sur la fin de ce Rashi, mais je veux formuler une objection de fond. Un argument pareil, ça peut convaincre que celui qui admet l'autorité de la Bible. Pourquoi passer par un raisonnement théologique aussi vulnérable pour une réponse à une question d'ordre politique? Lorsqu'Israël sortira d'Égypte, il va se heurter à l'ONU du temps qui diront « Mais vous êtes des brigands parce que vous prenez par la force la terre qui appartient à cette nation. » Il faudra la répondre « Lisez la Bible ». Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et pour ça, on a tous, vous avez compris, ça ne marche pas. Okay. Alors, si déjà ils sont convaincus de l'autorité de la Bible, il faudrait donc attendre que le dialogue éclate quand l'humanité est convaincue de l'autorité de la Bible. Okay. Une déclaration Balfour, c'est les Anglais qui lisaient la Bible. Bon, je reviens au problème. Alors qu'ils lisent les versets où c'est dit en clair, ce pays, je vous le donne. C'est clair, à Abraham, Isaac et Jacob, pour votre descendance, c'est laquelle de les fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, et pas les autres. C'est un récit circonstancié qui ne laisse place à aucun doute pour celui qui admet l'autorité de la Bible, fut-il anglais-anglican, d'où la déclaration Balfour. Et d'ailleurs, ça a aidé, je dois vous dire, que les Anglais aient lu la Bible, ça a aidé Balfour à admettre ce pays, c'est aux Juifs. Oui, c'est vrai, on l'a lu. Okay. Donc, vous suivez? Okay. Donc, c'est que l'objection des nations ne vient pas de là, puisqu'on est obligé de passer par ce raisonnement théologique barakifin, comment on dit barakifin en français, détourné, qui ne convaincrait personne. Et ça ne peut convaincre quelqu'un qui admet l'autorité de la Bible, mais alors si déjà lit les versets de l'histoire des patriarches, mais gamarnou, est-ce que vous avez compris que c'est difficile? Okay. Et pourtant, pour Rashi, c'est clair. Il vient expliquer, il ne vient pas compliquer. Okay. D'ailleurs, ça me permet de remettre en évidence le sens du mot mefaresh, le faresh, ça veut dire très littéralement expliquer, dépliquer, déplier, ce qui est impliqué, l'expliquer. Faresh, ça veut dire étendre une pièce de tissu qui est pliée, la déplier. Okay. Et alors, Ça signifie qu'on n'a pas compris l'objection des nations. Alors reprenez bien Rashi. Quelle est l'objection des nations? C'est pas vous êtes des usurpateurs parce que vous occupez votre pays. C'est vous êtes des brigands parce que vous le prenez par la force. L'objection c'est l'istimatem, c'est kabashtem, parce que vous avez conquis. À la rigueur, ils admettraient, comme le disent certains juifs orthodoxes, qu'il soit légitime pour les juifs d'habiter le pays d'Israël si on en hérite des mains du Messie. J'ai raccourci, mais vous avez compris. C'est-à-dire, si on vous donne ce pays sur un plateau, le Golan, et vous avez le droit de le prendre. Mais vous, les sionistes, vous êtes des conquérants. Vous n'avez pas le droit. Parce que, pour la mentalité des goïms, on a le droit de recevoir ce que Dieu donne que si on le reçoit par miracle. Ça veut dire que c'est une mentalité théologique radicalement différente qui est en jeu ici. Une minute, laissez-moi expliquer. Le verset des psaumes a dit « Nahalat goïm », ce que les goïms considèrent comme un héritage. Donc il faut que quelqu'un meure pour qu'il y ait l'héritage. En plus, l'Ancien, le Nouveau Testament. Donc. Mais, Yetzar, Ken, croire que dans le vocabulaire chrétien originel, testament, ça ne veut pas dire un testament, ça veut dire un témoignage. Okay. Mais ça envahit la signification de ce problème. Ça veut dire, si vous le recevez comme on reçoit un héritage, d'accord, c'est écrit. Mais vous êtes venu le conquérir. Vous êtes des listimes. Et jusque-là, on verra qu'il n'y a aucun dialogue possible. Alors pourquoi Rashi nous dit, eh bien, c'est pour répondre aux goïm, voilà comme. Et on sait très bien qu'ils n'entendront pas, puisqu'ils fonctionnent selon la théologie de la grâce. Okay? Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, les chrétiens, par exemple, savent, et les musulmans aussi, savent que ce pays est à Israël. Ils lisent la Bible et le Coran. Okay? Mais qu'est-ce qu'ils reprochent à Israël de l'avoir conquis? Attendez la fin des temps, que le Messie vous le donne. Ça veut dire, vous ne l'aurez jamais. Dans leur, parce qu'ils savent très bien, ils attendent un Messie qui ne vient pas. Donc. Et alors, c'est clair ce que je dis là. Et si mon excellent ami Michel Prince était là, eh bien il dirait que les Juifs orthodoxes pensent comme ça. Okay. Bien sûr, ce pays c'est à nous. Tous les matins pour la prière, on se dirige vers notre pays, tout en restant à trifouiller les oies, cachés autant que possible. Okay. Mais on n'ira jamais, parce qu'on a le droit d'y aller. Si le Messie nous le donne. Et entre-temps, on risque de faire la faute que font les sionistes, de provoquer l'égoïme, Dieu préserve, parce qu'on prend, on revient chez nous par là. Vous voyez donc, jusque-là, on est bloqué. Il n'y a pas dans le Rashi qu'on a lu une réponse à ça. Est-ce que c'est clair? On a compris que la question peut se poser, qu'il faut répondre d'après la Bible. Mais pourquoi ce verset-là que Dieu a créé? C'est clair? Alors, je vais vous mettre en évidence la réponse. On n'a pas beaucoup de temps, mais on va terminer ce matin. Lorsque les goïms viendront nous dire cela, ce pays c'est à vous, mais attendez-le en héritage, sinon vous êtes des méchants parce que vous l'avez pris par la force. Et je répète, c'est l'argument des chrétiens, des musulmans et des juifs orthodoxes. Vous voyez à quel point c'est grave, ok? Eh bien, et il faut leur répondre, vous croyez dans la Bible? Oui, on croit dans la Bible. Alors lisez comment Dieu donne la terre qu'il donne. Alors nous allons prendre le verset 28 du premier chapitre. On nous raconte dans ce récit comment Dieu donne au premier homme la terre qu'il lui donne. En lui disant quoi? Prenez le verset 28 du premier chapitre. Vous y êtes? Vaibarech otam Elokim. Il s'agit de Adam et de Ève. Et Dieu les bénit. Vaïomer laem, il leur dit, Elokim, Dieu, Perur, vous, on traduit croissez, multipliez, c'est notre sujet. Où mille ou et à aret emplissez la terre avec kipchoua et conquérez-la. Vous suivez? Voilà, ça suffit. Okay. Vous voyez que c'est le même mot qu'il y a dans le Midrash que cite Rashi. Quelle est l'argumentation des Umot Haolam? L'istimatem chez kabashtem. C'est clair? Vous êtes des listim, des brigands, c'est un mot qui vient du grec, parce que kabashtem, kibush, occupation militaire, okay. Et c'est clair maintenant dans le raisonnement. Alors donc, selon ce Midrash que cite Rashi, Israël doit leur répondre, mais vous ne savez pas comment Dieu donne la terre qu'il a créée, c'est à lui, il la donne à qui il mérite à ses yeux, lisez la Bible. Et qu'est-ce qu'on va lire? Min ou et ares de kipshura. Donc, la cohérence du raisonnement est très claire. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, mais même ça ne convaincra pas les goïms, puisqu'ils ne peuvent pas entendre que ce que Dieu donne, il faut le prendre. Il faut le recevoir en cadeau. Est-ce que c'est clair? Et bien, je voudrais finir le raisonnement. C'est-à-dire, c'est l'opposition entre la théologie de la grâce et la théologie du mérite. Vous allez organiser là énormément de références. Le Nachmanide, en particulier Sid, cette terre ne donne sa récolte qu'à qui le mérite. Et Nachmanide dit clairement, tant que les Juifs ne sont pas sur cette terre, il n'y a pas de récolte. Et c'est vrai, l'histoire a montré que. Ça veut dire, comment on obtient ce que Dieu donne? Le judaïsme répond par le mérite et se base sur la Bible en hébreu. L'ichbosh et agetzel. Il faut subjuguer les mauvais penchants pour que on ait du mérite. Le christianisme répond par la grâce. Alors vous voyez la difficulté de la mentalité chrétienne dans ce problème. Elle sait que ce pays, c'est la terre des juifs. Mais elle a une réticence. Et pourquoi vous le prenez par la force? Est-ce que c'est clair? Ça ne rentre pas dans la mentalité de la théologie de la grâce. Alors, laissez-moi finir. Alors, il faut se référer au texte où Dieu dit comment il donne la terre à l'homme dès l'origine de son histoire, à qui il la donne. Et c'est écrit en toute claire. En toute lettre, le programme sioniste. Suivez bien. Normalement, il devrait y avoir conquérir la terre et remplissez-la. Pour pouvoir s'installer dans un pays, il faut d'abord le conquérir et après on s'y installe. Il devrait y avoir l'ordre inverse. Kipcho et Taret ou Miloua. Comment dit le verset? Remplissez la terre et conquérez-la. Et c'est comme ça que s'est réalisée l'histoire au temps de Josué et de notre temps. On a d'abord rempli le pays tant qu'on a pu. Okay? Et puis, dès que les Arabes ont déclaré la guerre, alors on a fait la guerre. Vous avez compris le problème? Et vous avez remarqué que toutes les guerres d'Israël, c'est du centre à la périphérie. Alors qu'une guerre de conquête, c'est la périphérie au centre. On vient du dehors, on conquiert. Et ce Milou et Taharet Vechipchoua va dans le sens de l'histoire juive. Bon, mais jusque-là, même cela, et c'est clair, okay, Rashi semble dire, c'est pour qu'on puisse lire ce verset que ce chapitre a été mis dans la Bible des Goïms. Ça y est, c'est clair. C'est pour que les Goïms le lisent qu'on l'a mise par écrit. Mais jusque-là, ça ne le convainc quand même pas. C'est ce que Nachmanide ajoute en disant, en citant un autre verset, Lo asachen lechol goyim mishpatim bal yedaum alléluia. C'est que, en réalité, nous dit Nachmanide, c'est pour que les Juifs puissent le lire. Okay. Ça y est, c'est clair. Okay. Pour que les Juifs sachent que c'est comme ça qu'on prend la terre que Dieu donne. Okay. Parce que les Goïms, ça ne les convaincra jamais. Okay. Mais je referme cette parenthèse de Maïmonide. En terminant deux choses avant de vous donner la parole. C'est d'une part qu'il y a une coïncidence assez extraordinaire. Le verset du psaume dit Koach ma'asa b'yil ha'amo. La force de ses actes, le récit du commencement, il le raconte à son peuple. C'est là-dessus que Nachmanide va accrocher son écriture à son peuple. Okay? Pour que les Juifs sachent ça. Mais la valeur numérique du mot Koach, la force de ses actes, c'est précisément 28. Comme s'il y avait un clin d'œil du Midrash. Va lire au verset 28 du Maaseh Bereshit, ce qui se passe. Et c'est le verset 28 du Maaseh Bereshit qui nous donne la clé. C'est clair? Bon, ça c'est une première chose. Puis deuxièmement, c'est dans le fond même de la question de Rashi. La Torah ne devait commencer que par le calendrier de la lune. Pourquoi ça commence à la création? Va voir au verset 28. 28, c'est les jours du mois de la lune. Okay. Il y a une correspondance entre Chodesh Hazeh et Koach Ma'asav. Okay. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce verset? Croissez et multipliez, l'enfantement. Vous savez, le rôle des 28 jours de la lune dans la grossesse. Bon, je vous dis ça juste en passant. Pour dire que plus profondément, Chodesh Hazeh Lachem et Koach Ma'asav Yilamo, c'est la même chose. Okay. Qu'en fin de compte, c'est lié. Donc, je dis ça simplement en passant. Alors, dans tous les cas, c'est pour intégrer le fait que dans cet enseignement de Rashi que nous avons étudié succinctement pour objet, avec pour objet mettre en évidence l'importance des récits historiques des engendrements dans l'humanité en tant que Torah. C'est-à-dire de comprendre la carte d'identité d'Israël, de telle sorte qu'Israël sache réagir au moment où il doit rentrer sur sa terre et accomplir les mitzvot. Donc c'est la première question, nous dit Rashi, qu'il faut étudier. C'est clair. Okay. Qu'il y a une cohérence logique absolue mais complètement imperceptible, et au contraire, on croit qu'il y a une cohérence, incohérence logique, si on ne sait pas de quoi Rashi parle. Vous voyez la différence entre la Torah chez BLP et le commentaire exégétique de type critique biblique, je ne sais pas. Est-ce que c'est clair? Bon, voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Et à partir de demain, une minute, on va prendre encore une minute, à partir de demain, nous allons commencer un certain nombre de textes de l'histoire du livre de Bereshit pour approfondir en coup de projecteur tel ou tel point du problème Israël et l'universel humain. Okay. Préparez vos questions pour demain, on choisira demain. Ken. Les deux. Bon, les deux. Il y a fait. Il y a fait. Mais ici, il s'agit du kibouche de la terre. Et le kibouche de la terre, c'est d'abord l'agriculture juive. L'irboche est à Aretz. Et défendre la production agricole contre les attaques, etc. D'où le chômeur, la chômeur. Okay? Et en fin de compte, ça. C'est clair. Bien, alors on se revoit donc ce soir à 8h30 et demain matin.